David Levine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour cette dernière de C'est bon pour la santé. C'est un beau cadeau que vous nous faites.
C'est bon pour moi, merci beaucoup.
David Levine, à travers ce livre-là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui se dégageaient. Bon, c'est un peu autobiographique parce que, d'une part, vous relatez votre enfance, votre parcours, vos études, également cette rencontre extrêmement déterminante avec M. Jacques Parizeau, et puis tous vos apprentissages à travers les années. C'est à la fois aussi une leçon sur la gestion, sur le leadership, mais je pense que l'un de vos buts était de remettre en question notre système de santé actuelle.
Effectivement, tout le long du livre, ce que je réalise à travers 40 ans, l'implication de la politique dans notre système de santé, parce que c'est un système conçu depuis 1970 dans un système public, mais le public avait au début la responsabilité de l'administrer, mais pas de le gérer.
Mm-hmm.
De l'administrer, ça veut dire avoir la RAMQ pour payer des médecins, définir des politiques, déterminer les montants d'argent, mais pas nécessairement de le gérer. Ils ont décidé de le gérer. Alors, les 260 000 employés de notre système de santé sont des employés de l'État. Et ça, c'était une décision gouvernementale il y a très longtemps. Toutes les provinces canadiennes ont fait la même chose. Alors, c'est pas unique au Québec. À cause de ça, on a suivi presque à la lettre la dynamique de développement de nos hôpitaux, parce qu'au début, c'était un programme fédéral-provincial 50-50, où le gouvernement fédéral a accepté 50 % de tout ce qui se passe à l'hôpital et le revenu à l'acte des médecins. Et dans ce sens-là, on a développé un système hospitalo-centrique. Et dans mon livre, le thème principal est « si on veut changer ». Si on veut avoir plus d'accessibilité, si on veut avoir les médecines de famille disponibles pour faire une prise en charge, pour faire le suivi d'une personne qui a une maladie chronique, on a besoin d'avoir un changement du paradigme, un changement profond de notre système. Il ne devrait plus être un système curatif dans l'hôpital, mais un système dans la communauté. La nature des maladies ont changé. Au début des années 60, c'était des infections. On a eu des antibiotiques et on avait besoin des interventions curatives. En 2015, c'est les maladies chroniques. Le HIV est devenu une maladie chronique. Même le cancer, dans une grande majorité des cas, devient une maladie chronique. Et le dynamique maintenant, c'est de mieux gérer cette période-là pour que ces personnes ne retournent pas fréquemment dans le système curatif aigu, parce que cette partie de notre système coûte extrêmement cher. Mais malheureusement, on ne le fait pas.
Oui. David Levine, nous sommes dans un système, comme vous l'avez bien expliqué, curatif. Ne devrait-on pas aussi privilégier un système qui serait préventif?
Exactement. Si on regarde, et ça peut venir, on a des nouvelles technologies qu'on appelle la médecine personnalisée, c'est-à-dire la capacité de faire une lecture génétique de chaque individu, de même prédire des types de maladies possibles dans le futur, de réagir avec des interventions préventives, mais les plus grandes interventions préventives ne sont pas liées à la santé. L'espérance de vie a changé d'une façon énorme dans les dernières 30 ans.
Oui.
Mais la grande majorité des changements n'est pas liée à notre système de santé. Il est lié aux habitudes de vie, il est lié d'arrêter de fumer, il est lié à des ceintures dans les voitures en ce qui concerne les accidents, les traumas. Alors, on a besoin d'intervenir si on veut garder une population en santé. Mais en ce qui concerne le système, c'est-à-dire les 260 000 personnes qu'on paye et les médicaments qu'on consomme, c'est ça qu'on doit regarder de près. Je ne sais pas si vous savez, je mentionne dans mon livre que 40 % de tous les médicaments prescrits et qu'on reçoit sont, une, pas nécessaires ou mal consommés ou ont des interactions avec d'autres médicaments qui causent des problèmes encore plus sérieux. C'est 40 % Si on regarde les tests diagnostiques demandés, c'est-à-dire des tests laboratoires, il y a une énorme quantité non nécessaire. Et il y a une habitude de ce temps-ci de demander toutes sortes de tests à tout le monde. Et on appelle ça d'utiliser la science de la médecine au lieu de l'art de la médecine. Oui. Ça prend un changement. Je ne veux pas de aucune manière nier la science. C'est important et que les médecins, avec leurs connaissances, quand c'est nécessaire, devraient avoir accessible les examens nécessaires. Ils l'ont pas. Dans la communauté, une des raisons pour lesquelles on n'a pas des médecins dans la communauté, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à des équipements qu'ils ont besoin. Il faut envoyer le patient à l'hôpital où il prend ça dans un lieu où il doit payer avec des frais accessoires. Mm-hmm. Il est mieux de faire le test où se trouve le médecin, pas être obligé de retourner à l'hôpital tout le temps.
Oui. L'un des problèmes que vous soulevez également est peut-être comme un obstacle à tous les changements que l'on voudrait voir, se créer, c'est la place de l'hôpital, la place accordée à l'hôpital qui est peut-être trop grande. On a beaucoup investi, on s'est concentré sur l'hôpital dans notre système, peut-être au lieu de s'intéresser aux cliniques qui pourraient se créer.
C'est exactement ce que je mentionne. On est devenu hospitalo-centrique. On a investi, pendant que j'étais PDG de l'Agence de Montréal, 8 milliards dans la construction de CHUM, de CUSUM, de l'hôpital juif et de Saint-Justine. Même si je ne compte pas les plans pour Sacré-Cœur, Maisonneuve-Rosemont et autres qui sont prévus pour toutes sortes de constructions, et on n'a mis pas une cent dans les cliniques médicales dans la communauté où ça doit se passer 80% de tout le contact entre la population et notre système de santé. Alors, l'endroit où ça doit se passer, on n'investit rien et dans le milieu hospitalier, on investit une absolue fortune qui doit tout emprunter et qui cause un paiement de la dette énorme chaque année pour nous autres. Je ne dis même pas pour notre gouvernement. C'est toi et moi qui dois payer ça chaque année.
Oui. Ces changements-là, David Levine, ils passent par quoi? Est-ce qu'ils passent par l'homme politique, par des décisions politiques? Bon, on sait, c'est le ministre Barrette qui est à la tête en ce moment, ministre de la Santé pour le Parti libéral. Est-ce qu'il peut amener ces changements-là?
Et il faut que ça passe par la politique. On n'a pas le choix, c'est la nature de notre système. La résistance est très, très forte et les groupes de pression, les groupes très puissants, comme la Fédération des médecins spécialistes, comme la Fédération des médecins omnipraticiens, comme des autres milieux syndicaux, rendent ça très difficile pour le ministère d'entrer des changements importants. Il peut entrer des changements structurels. On fusionne des établissements et on prend 5 établissements puis on les combine ensemble, ça devient un établissement. Au lieu de 5 DG, on a une DG avec 5 assistantes.
Ouais.
Alors, on change la structure, mais on n'a pas changé le volet clinique qui est ce qui doit changer. Et pour changer le volet clinique, il faut toucher les médecins, il faut toucher leur mode de rémunération. Mm-hmm. Il faut toucher où on met une emphase pour la rémunération. Un omnipraticien est mieux payé à l'hôpital que dans la communauté.
Ouais.
Si tu es un omnipraticien, dont 50% de nos omnipraticiens à Montréal travaillent dans nos établissements de santé, c'est-à-dire dans les hôpitaux, les CLSC, etc., et 50% dans la communauté pour nous voir en clinique où se doit passer 80% de l'activité. Pourquoi? C'est plus plaisant d'être à l'hôpital. Vous êtes avec d'autres personnes. Vous êtes avec une équipe.
L'équipement également qui est présent.
Excusez-moi, là.
L'équipement qui est présent
oui,
en milieu hospitalier.
Comme j'ai dit, vous avez accès facilement à de l'équipement. Vous avez accès facilement à un spécialiste. Mmh. Il est juste à côté. Vous le rencontrez en cafétéria. Cher docteur, j'ai tel problème avec tel patient. C'est quoi votre suggestion? Le contact, la communication est facile. Alors, c'est très plaisant. Les omnipraticiens décident d'aller là.
Mm-hmm. Mais en même temps, je veux vous entendre sur les réformes qui sont en train de se faire du côté du Parti libéral, notamment la loi 10, réforme de M. Barrette. Quel impact ça aura, tout ça, sur les professionnels de la santé? Mais bien sûr, si ça a des répercussions sur les professionnels de la santé, ça en aura sur le grand public.
Oui, sûrement. La réforme de Dr. Barrett, en étant structurelle, a un potentiel de fait, effectivement, une meilleure intégration dans notre système et réduire certains coûts d'achat de matériel. La réduction du personnel, je ne le crois pas.
Ouais.
On peut enlever les cadres de notre réseau, mais on va simplement les remplacer par les techniciens administratifs. Il va y avoir d'autres titres, mais le travail doit être fait. Et dans ce sens-là, pour les 260 000 travailleurs de notre réseau, travaillent et ils travaillent très fort. Ce n'est pas là des économies de notre système. Alors, pour le Dr. Barrett, d'avoir implanté cette intégration d'établissement, grand potentiel, grand danger, c'est la centralisation qui se passe dans le système. Vous savez maintenant que le ministre nomme les conseils d'administration, nomme le président du conseil d'administration, nomme le DG de l'hôpital qu'on appelle de CIUS ou CIS, qu'on appelle maintenant un PDG, et nomme même le deuxième dans l'établissement, le PDGA. Ça n'a jamais été vu un niveau de micro-gestion de la part du ministère dans les affaires de nos établissements. Et maintenant, le Québec est doté simplement de 34 établissements, 22, 6 ou 6, ce qu'on appelle, ça c'est les regroupements d'une multitude d'établissements qui sont les hôpitaux, les CLSC, les centres de longue durée, mais en même temps, les centres de réadaptation, les centres de jeunesse, les hôpitaux psychiatriques, les centres de déficience intellectuelle, les centres de réadaptation à long terme. Alors, vous avez tous les centres sur une seule gestion.
Ouais.
Pas mauvais. Ça peut aller très bien si ces gestionnaires ont la liberté, ils sont capables d'être créatifs, introduire des nouveaux plans sans toujours demander permission.
Ouais.
Mais la manière que le système évolue actuellement, on fait rien sans demander permission.
David Levine, vous êtes maintenant professeur à la Faculté de médecine de l'Université McGill et également à la Faculté de santé publique de l'Université de Montréal. Donc, vous côtoyez ces futurs professionnels de la santé. Comment ils entrevoient, eux, tout jeunes, justement créatifs, qui ont envie peut-être d'exercer cet art de la médecine, comment ils entrevoient les prochaines années?
Je pense que les choses qu'ils voient dans les médias dont ils me parlent tous, c'est qu'il ne revient pas l'attitude envers les personnes qui travaillent dans le réseau. On a l'impression, jusqu'à date, par le discours qui sort, qu'il y a un manque de respect pour ces personnes, qu'il y a une sorte de commentaire qui ne travaille pas, qui ne travaille pas fort, il faut le mettre au pas. Et ça crée une atmosphère qui n'est pas plaisante. Et je donne souvent l'exemple, si l'infirmière est chicane avec son mari le matin, puis elle arrive à l'hôpital, ses premières heures de contact avec les patients peuvent être un tout petit peu corsées comme d'habitude. Finalement, elle va être très professionnelle, puis elle va offrir le type de soins requis. Mais imagine quand vous avez 260 000 personnes, tous inquiètes, tous déprimées, tous chambardées, tous pas à l'aise et qui ne sent pas. Moi, je parle dans mon livre sur le leadership. Et l'important pour le leader, le gestionnaire, qui dans ce cas, M. Barrett, là, de travailler très fort à animer, à stimuler, à encourager les personnes qui travaillent dans son entreprise, les donner l'autorité d'innover et de créer des nouvelles choses pour que chaque jour qu'on rentre au travail, c'est intéressant. C'est excitant, puis on s'en supporte.
Oui.
Si on n'a pas ça, ça ne se développe pas. Hein?
Et ça a un impact, bien sûr, sur le grand public, donc vous et moi, David. Mais
le grand public, j'espère que parmi nos professionnels et le professionnalisme, le contact direct et le type de soins, moi, je suis convaincu que le chirurgien dans la salle d'op, là, il va être aussi bon qu'il a toujours été, et nos chirurgiens sont excellents.
Oui.
J'ai moins préoccupé de ce type d'intervention. Je suis plus préoccupé par un impact sur la qualité lié à la bureaucratie. liée à trop de paperasse, liée à trop de collecte de données pour le contrôle, et qu'il y a trop de focus administratif et pas assez de focus clinique. À ce moment-là, il peut avoir un problème réel de qualité.
David Levine, vous ne la voyez pas, mais Jocelyne Gadebois, infirmière, est présentement en régie. Elle et elle opine de la tête. Elle est bien d'accord avec vous. Donc, je pense que votre livre, vos propos résonneront très fort, autant chez le grand public que les professionnels de la santé. Je rappelle, ce livre s'intitule « Santé et politique, un point de vue de l'intérieur », publié chez Boréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, David Levine. Et peut-être des projets de sculpture pour cet été?
Mais effectivement, vous avez tout à fait raison. J'ai hâte d'entrer dans mon atelier et c'est ça que je fais avec l'autre moitié de ma vie de ce temps-ci.
On vous souhaite un très, très bel été. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.